Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Patrimoine, les visites radiophoniques. Une nouvelle visite en compagnie toujours de Nelly Lafont, animatrice au Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Un petit changement, on a laissé Caro au repos pour rejoindre Alexandre Monceau, guide conférencier à l'Office de Tourisme intercommunal de Mende. Bonjour Alexandre.
Et bonjour à tous.
Et Alexandre, ça tombe bien parce qu'on va visiter un lieu atypique de la ville de Mende, c'est ça Nelly ?
Oui, on est à Mende aujourd'hui pour vous faire une petite mise en situation. On est contre le boulevard Théophile Roussel et on est proche de la résidence pour seniors autonomes de Piancourt. Et donc on va vous amener visiter un patrimoine, enfin on va vous amener découvrir un patrimoine un peu particulier parce qu'on va parler de mobilier cette fois. C'est pour ça qu'Alexandre nous accompagne et pas Caro sur cette visite.
Allez, on est parti.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Voilà, donc on est arrivé à côté de cette résidence Piancourt, la rue adjacente. Et on est où, Nelly ?
On est devant l'ancienne pharmacie de l'hôpital de Mende qui était située ici à l'origine. Et on va découvrir donc ce patrimoine vraiment exceptionnel du 19e siècle.
Allez, c'est parti. Donc un patrimoine qui vient juste d'être rénové, non ? C'était rénové il n'y a pas longtemps, on voit que c'est très neuf à l'intérieur, Alexandre.
Oui, donc la pharmacie, elle a été fermée pendant de longues années. Et puis en 2019, il y a eu une campagne de restauration avec le soutien donc, du département, de la région, de l'État et de l'Europe. Donc c'est inauguré depuis un an finalement, hein, puisqu'on a fait l'inauguration en janvier 2020. On avait voulu commencer les visites guidées au mois de mars, on a eu le temps d'en faire deux, et puis après, on a été confinés. Voilà, donc on en a fait un peu cet été, mais c'est vrai que c'est tout neuf.
Alors Nelly, si on peut revenir un peu sur le contexte, on est dans une pharmacie, tu nous as parlé d'ancien hôpital, qu'en est-il exactement ?
Effectivement, à l'origine, il y avait un hôpital ici, voilà, qui se déployait au niveau de l'actuelle résidence Piancourt, mais ce n'était pas le premier hôpital de la ville de Mende. On est à ce moment-là au XVIIe siècle. Cet hôpital est voulu par Monseigneur Piancourt, que les Mendois connaissent bien, puisqu'on a donné son nom à beaucoup de choses de la ville de Mende. À cette époque, il faut imaginer la ville de Mende intra-rempart, hein, c'est-à-dire elle se cantonne en fait au centre historique qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut imaginer environ 4500 habitants dans cette ville de Mende qui est à ce moment-là insalubre. Et donc l'obligation de l'Église de construire, de créer un hôpital dans le chef-lieu de diocèse que les évêques doivent donc, au-delà de créer, entretenir et proposer pour accueillir la population. Donc ça, c'est au XVIIe siècle, cet hôpital. Mais avant ça, il y en avait déjà eu un qui était absolument pas situé là, mais il était situé donc proche de la porte d'Angiran, c'est-à-dire à peu près à l'actuelle Tour des Pénitents, chapelle, et il se déployait un petit peu plus bas, jusque sur la rue d'Angiran, justement, qui porte encore ce nom aujourd'hui.
J'imagine qu'il n'y avait pas énormément d'hôpitaux à l'époque. Cet hôpital, c'est quoi l'hôpital du Gévaudan ? C'était l'hôpital pour quelle superficie, si on le sait ?
C'était un hôpital par diocèse. Le diocèse correspond plus ou moins aux actuelles limites du département, on peut dire.
Oui, c'était le grand centre hospitalier. Après, ça n'empêchait pas d'avoir des petits lieux d'accueil sur le territoire, mais le grand hôpital, il était à Mende. Et puis, un hôpital, ça n'avait pas tout à fait la fonction que ça a aujourd'hui. Mais ça, Nelly va vous en parler mieux que moi, je pense.
Pas forcément mieux, mais... Mais oui, effectivement, hôpital, hein, ça vient de hospital, de l'hospitalité. Et donc, à l'origine, les hôpitaux ont pour vocation de lutter contre le vagabondage et la mendicité, plus que d'assurer des soins, en fait.
C'était des accueils de jour, en fait, un peu. Ce qu'on appelle un accueil de jour à l'heure actuelle.
Oui, quelque part, même s'ils accueillaient aussi la nuit, hein, ils y étaient logés. Donc, l'hôpital du Moyen-Âge, il avait à peu près 500 lits. 500 places. Hein. Donc voilà, sur une population aux alentours des 3-4 000 habitants, ça commence déjà à représenter quelque chose d'important. Et puis, on avait aussi des sites éparpillés, dispersés, pour notamment les problèmes d'épidémie. Alors la lèpre était considérée comme une épidémie, donc on avait la léproserie en Crousaz. Donc aujourd'hui, on a toujours une rue de la Maladrerie hein, dans le quartier d'Encrouzas, qui est détruite à la fin du XVIe siècle. Et puis, on avait une deuxième maladrerie à Janicot. Donc elle avait été détruite là encore en 1597. Et elle est reconstruite ensuite, puisqu'on sait qu'en 1721, lors de la peste qui va tuer un Mendois sur quatre, on avait un lieu de confinement pour ces pestiférés sur la Maladrerie de Janicot. Donc il y a encore quelques vestiges qu'on peut voir quand on monte sur Janicot.
Voilà, et donc pour reprendre, donc ce fameux premier hôpital d'Angiran va être détruit en 1593 pour être remplacé par une citadelle pour protéger la ville des attaques des troupes protestantes. Et donc il va falloir attendre les années 1630 pour qu'un nouvel hôpital soit construit, mais de l'autre côté de la ville, dans le quartier d'Aiguepasse, où nous nous trouvons aujourd'hui et dont nous allons parler plus précisément. Cet hôpital qui est donc construit au milieu du XVIIe siècle, on va dire, il s'agit en fait d'un bloc de maisons dans des états de délabrement assez avancés et donc assez peu commodes.
Donc on est dans cet ancien hôpital, on n'a pas vraiment l'impression qu'il ait été insalubre.
Eh bien non, parce qu'en fait, il a été reconstruit, cet hôpital. Alors, il faut attendre 1678 et l'arrivée de François Baudry de Piancourt pour qu'on ait véritablement une réorganisation. Donc, il va raser tout le quartier, toutes ces maisons-là qui avaient été achetées, pour construire un bâtiment qui est en fait la fondation du bâtiment actuel dans lequel nous nous trouvons. Cette gestion, elle était dédiée à des sœurs, les sœurs de la Miséricorde, qui avaient pour fonction donc de prendre garde aux pauvres honteux et malades, aux femmes et filles scandaleuses. On est autant sur de l'accueil de jour finalement que du soin. Donc cette première institution, elle va bénéficier du financement de François de Piancourt, qui lègue d'ailleurs sa fortune à son décès à l'hôpital. Hôpital qui va s'agrandir entre 1765 et 1786. On suppose d'ailleurs à ce moment-là que c'est là qu'on crée une première pharmacie. On va y revenir. Et puis, on va avoir une deuxième phase de travaux importants au 19e siècle, cette fois-ci en 1850, jusqu'en début des années 1860. Et c'est à cette période-là qu'est construite la pharmacie actuelle et le bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors après, pour les Mendois de naissance... La maternité, qui donc était l'ancien trésor public, aujourd'hui, lui, date de 1894. Et l'hôpital va rester ici, sur ce site, jusqu'en 1972, avant d'être transféré au centre hospitalier actuel. La pharmacie donc fonctionne ici jusqu'en 1972. Puis, après 15 ans d'inactivité, le bâtiment est transformé entre 1988 et 1990 en résidence pour seniors autonomes, ce qu'elle est encore aujourd'hui, hein, donc la résidence Piancourt.
Et donc du coup, on voit un portrait de François Placide de Baudry de Piancourt.
Oui, alors pour nos auditeurs, pour qu'ils se représentent un petit peu l'espace dans lequel on se trouve, donc il y a trois espaces un petit peu séparés dans ce bâtiment. Ici, on est dans l'entrée avec donc un portrait de Monseigneur de Piancourt et trois statues à côté. Donc ça, ce sont d'autres vestiges de l'hôpital et plus particulièrement de la chapelle de l'hôpital. Et on en reparlera tout à l'heure. Et à côté donc de cette entrée, on donne donc sur un bureau dont on va reparler aussi tout à l'heure. Et puis là, on va entrer dans l'espace vraiment pharmacie.
Il y a aussi une plaque, c'était la plaque d'entrée, j'imagine, de l'hôpital ? Pas du tout ?
C'est la plaque qui accompagne le cœur momifié de Monseigneur de Piencourt. Donc, quand Piencourt décède, dans son testament, il demande à ce que son cœur soit séparé de son corps. Donc, son corps est enterré à la cathédrale et le cœur est placé dans le grand retable de la chapelle de l'hôpital qu'il a fondé. C'est une pratique assez courante, en fait, depuis le milieu du Moyen-Âge. Hein. Les grands personnages dissocient leurs organes pour rendre hommage, pour être positionnés dans des lieux qui leur sont chers, pour marquer aussi leur intérêt pour tout ça.
Donc de suite, on arrive dans un plus grand volume, tout en bois, Nelly.
Oui, tout en bois et elle couvre entièrement les quatre murs en fait de la pièce dans laquelle on se trouve et elle est extrêmement bien conservée, donc oui, restaurée, mais extrêmement bien conservée. Donc cette pharmacie, elle date de 1850-1851, donc du 19e siècle. Donc l'ensemble des boiseries est en noyer avec des parties, en tout cas au moins en façade, avec des parties en pin, notamment pour les tiroirs. Donc on a toute une série pour nos auditeurs, on a toute une série de tiroirs avec des poignées, des boutons en fait de tiroirs en cristal, avec les étiquettes de différentes plantes, produits. Et des vitrines avec des pots portant aussi pas mal des étiquettes. On a un grand comptoir qui permettait les préparations avec balance, mortier. Donc pour donner une petite idée, il y a 240 tiroirs en tout ici et 15 vitrines auxquelles s'ajoutent 14 placards. Alors ici, il s'agit d'un exemple de grande dimension, dont les autres exemples équivalents sont assez rares en fait en France. Sur la quarantaine de pharmacies conservées sur place aujourd'hui, seule une dizaine sont aussi grandes et aussi bien conservées.
On peut citer par exemple Troyes, l'Hôtel Dieu, hein, Beaune, alors plus près de nous, Lodève, j'aime bien, c'est en Anjou, à Baugé. Donc ces pharmacies... On en avait un peu partout sur le territoire et on a véritablement ici un bijou. Hein. Donc à peu près 500 substances, comme Nelly l'a dit, pour le soin de toutes les affections à l'aide d'un matériel donc très varié dont on a bien sûr pas la totalité. On a des fioles, on a des mortiers, on a des flacons. Le grand comptoir où le préparateur s'installait, réalisait ses remèdes demandés par les médecins de l'hôpital. C'était la pharmacie à usage exclusif de l'hôpital. Hein. Les particuliers ne pouvaient pas venir se fournir ici. Et puis, on constate la variété des produits utilisés. Hein. On a énormément de noms différents. Le savoir pharmaceutique, en fait, il est assez ancien. On l'hérite directement de l'Antiquité classique. Ces plantes, elles peuvent être utilisées seules. C'est ce qu'on appelle les simples. Alors, c'est un mot qu'on connaît, qui nous évoque les jardins médiévaux. Et en fait, c'est normal. Les abbayes, les couvents, les églises, mais aussi les personnages les plus importants du royaume avaient chez eux une petite partie du jardin qui était dédiée à la production de ces plantes médicinales. On va vous en présenter quelques-unes un peu plus tard. À côté des plantes, on trouve des oxydes métalliques, quelques dérivés animaux et puis quelques minéraux. Mais voilà, c'est essentiellement des plantes. Ce qui fait la différence, en fait, avec aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a travaillé par la chimie à aller chercher les molécules qui étaient présentes dans ces plantes, donc ce qu'on appelle les principes actifs, et on les a créés chimiquement, ce qui permet de se libérer des problèmes d'approvisionnement. C'est vrai qu'aller ramasser de la menthe en plein hiver, c'est pas toujours évident. Donc ça permettait de se passer de ce genre de soucis, mais en fait, le principe et les éléments qui nous soignent sont toujours les mêmes encore aujourd'hui.
Tous les éléments sont d'époque, c'est-à-dire les vases, les flacons, tout ça?
Ouais, tout ce qu'on a ici est tel que, du moins l'hôpital nous l'a laissé lors de la cession du bâtiment en 1988. Donc c'est dans l'état en fait des années 70. Donc on a juste nettoyé et on n'a rien touché d'autre.
Soir. sur tes bancs, laisse respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent. Et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur. Et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia boing dans les cheveux. Je fume une cigarette, papier maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse.
On peut ouvrir un tiroir pour voir un peu d'un peu plus près.
Voilà, donc ces tiroirs carrés qui sont tous plus ou moins de la même taille, mais pas tout à fait. Il y a des particularités. Bon, c'est sûrement dû aussi à la quantité nécessaire. Il y a des produits qu'on devait utiliser sûrement un peu plus souvent que d'autres. Je pense par exemple, là on a par exemple la ciguë. Tu connais ça, Ludo, la ciguë, non ?
Pas du tout, non.
Pas du tout ?
Non, non, ça doit... Si vous me regardez avec ses yeux, ça doit avoir une référence à l'alcool, non ? C'est pas ça ?
Non, à des meurtres, à la mort.
C'est un poison.
Tout à fait, c'est un poison, mais c'est un poison qui peut soigner aussi.
Donc, on utilisait des trucs un peu bizarres. Hein. Il y a un tiroir, c'est marqué « sans dragon ». C'est pas du sang de dragon, hein, je vous rassure tout de suite. C'est une plante. On a des produits comme l'élixir de longue vie. Alors, ça doit pas marcher des masses parce que le flacon, il est toujours plein. Donc, ça devait pas être si efficace que ça. Mais on a voilà, un peu de tout.
Ce qu'il y a dans les flacons, c'est vraiment ce qui devait y être ou vous avez mis des choses pour faire croire ?
Alors, on a rien touché. On a laissé... ce qui était dans les flacons. Alors, est-ce que c'est exactement ce qui est écrit sur l'étiquette ? Peut-être pas 100% pour tout. Il y a des choses, on est sûr, parce que, par exemple, les clous de girofle, où on ouvre le pot, ça sent le clou de girofle. Donc là, on est... Et puis, on les reconnaît facilement. C'est vrai que là, par exemple, on est devant de la résine de crocus. figé. J'en avais jamais vu de ma vie. Je ne sais pas si c'est vraiment ça.
A priori, si. Voilà. Donc, on a eu un pharmacien farceur qui a mis une étiquette sur le mauvais pot.
Moi qui suis un peu spécialiste de résine de crocus, ça y ressemble.
Voilà, exactement. Alors, ce qu'on a aussi, mais qui n'est pas visible directement quand on rentre, c'est dans le comptoir, les anciennes étiquettes du pharmacien, parce qu'il ne faut pas se tromper non plus quand on donne les remèdes. Donc, on a toute une série d'étiquettes qui portent le nom de l'ancien hôpital de Mende, qui permettait aux pharmaciens, une fois que ces préparations, ces potions, ces poudres, ces remèdes fabriqués pouvaient donc donner le sachet, le flacon, puisqu'on a aussi des flacons qui sont conservés. On voit qu'on a toute une série de flacons vides qui permettaient aux pharmaciens donc de donner les remèdes aux malades.
Voilà, donc Alexandre, tu nous ramènes justement de ces flacons.
Oui, c'est un des petits flaconnages là avec en verre soufflé. On a des petites bulles à l'intérieur de la matière, donc on est sur des verres de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, donc qui sont quand même déjà assez anciens, et on en a toute une collection, donc de tout type, de toute forme. Et puis après, on a des choses un peu plus modernes, avec, parce que ça a servi jusque dans les années 70, donc on a avec des pipettes pour donner des gouttes, avec les graduations, mais on avait plein de choses. Dans le matériel qu'on avait, il y a par exemple les moules à suppositoires. Il fallait bien les... Là, on fabriquait tout sur place. Donc, par exemple, les moules à suppos, les pommades, les crèmes et autres onguents avec les mortiers. Enfin, voilà. Donc, tout était fabriqué sur place.
On sait combien de préparateurs travaillaient ici ?
Alors, à la fin, en 72, ils sont deux préparateurs et un pharmacien chef. Et puis, c'est monté apparemment jusqu'à trois préparateurs avec un point d'eau qui devait se trouver... Par contre, à l'extérieur de la zone, aujourd'hui, qu'on a sanctuarisé musée, hein, donc dans la partie résidence Piancourt, puisque si on n'a pas d'eau pour fabriquer les médicaments, ça paraît compliqué.
Ce qu'on peut peut-être aussi évoquer avec toi et les auditeurs, c'est les deux vases de Sèvres qu'on conserve encore à la pharmacie, qui sont de très très belles factures et qui ont en plus... une destination, en tout cas une fonction assez particulière dans une pharmacie.
Oui, alors c'est un des vases alors de taille assez monumentale. Il doit faire dans les 60-70 cm de haut. Très beau, hein, c'est de la porcelaine donc de la manufacture royale de Sèvres du 19e avec des émaux, de la feuille d'or. Donc c'est de la démonstration, quelque part. Et à l'intérieur, on le sait parce qu'il y a les noms qui sont écrits dessus, il y a deux produits qui sont un peu les produits phares de la pharmacopée du 19e, qui est la Tirarque. Donc c'est un anti-venin à base de vipère macérée et d'opium. Voilà. Un remède connu déjà chez les Grecs. Et puis l'autre, c'est le Diascordium, c'est un anesthésiant à base d'opium, là encore. Voilà. Donc c'était un petit peu, vous aviez un petit bobo, vous aviez mal quelque part, on vous donnait quelques gouttes de Tirarque, ça vous détendait tout de suite forcément. Et puis vous aviez un petit empoisonnement, hop, un petit peu de venin de vipère et c'est reparti. C'était mieux avant qu'ils disent. Moi, je suis pas sûr.
C'est pas sûr. Oui. On a des registres qui nous expliquent où on se procurait un peu toutes les plantes qui arrivaient ici, si c'était sur la région.
Alors, on a des plantes locales. Je pense par exemple à la valériane, à la gentiane, qui étaient et qui sont toujours aujourd'hui récoltées hein, sur le territoire. On peut penser aussi aux narcisses sur l'Aubrac qui sont collectées pour la parfumerie. Encore aujourd'hui, donc ça, il y avait la récolte locale, et puis on a des choses beaucoup plus exotiques hein, qui étaient importées depuis les colonies, depuis à travers le monde entier.
Il y a toute une partie qui vient de la récolte de plantes sauvages en fait, et une partie qui va venir de plantations spécifiques prévues pour la pharmacopée.
Au-delà de France métropolitaine donc.
Oui, et en France et au-delà, oui, parce que très clairement, par exemple, le sucre qui est utilisé, hein, la canne à sucre, puisque jusqu'au milieu du 19e, on maîtrise mal le procédé de la sucre, du création de sucre à partir de la betterave, il faut faire venir depuis les îles des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on a d'autre là
Les eaux de sèche.
Les eaux de sèche, en Lozère, c'est assez rare de trouver des sèches dans le fond du Lot. Hein. L'absinthe, on l'a trouvé chez nous. La fleur d'oranger, un peu moins déjà. Et après, il y a plein de, on a énormément de choses qui viennent un peu de partout. Des produits de Cologne, par exemple, hein, qui étaient importés directement de Cologne à l'époque. Donc, voilà. Donc il y avait des productions spécifiques et tout un réseau européen et international déjà.
Du coup, c'est une pharmacie ou une apothicairerie ?
Alors, à partir de 1777, on a la création du Collège de pharmacie de Paris. Donc, on ne va plus parler d'apothicairerie, mais de pharmacie. Donc, d'apothicaire, on passe à pharmacien. Et du coup, on vous propose un dernier arrêt, voir l'ancien bureau du pharmacien.
Pour compléter, pharmacie, ça vient du grec, pharmakein, et qui est usage de drogue. Donc voilà, on avait déjà, on parle hein, de drogue comme de médecine à la place de médicaments. Et on avait bien sûr des drogues aussi. Il y a d'ailleurs un placard dans la pharmacie avec un double placard qui servait à stocker les drogues.
Allez, on va au bureau.
Oui.
Donc le bureau est au niveau du hall d'entrée. C'était sa place ou vous l'avez mis là quand vous avez rénové un peu le bâtiment ?
Alors, le bureau du pharmacien se trouvait bien dans cette pièce-ci. Après, la totalité de ce qui est dans le bureau actuellement, en fait, c'est une recréation. Donc, par exemple, le meuble qui sert de bureau, il était à la mairie, c'est le bureau de Monsieur René Estoupe, le maire des années 60. La bibliothèque, on l'a trouvée aussi dans les propriétés de la mairie. Les ouvrages sont des ouvrages qui viennent de la médiathèque. Et de la médiathèque, on a aussi pu tirer les deux belles gravures qui sont issues en fait du fonds ancien de l'hôpital. Donc, on a été les chercher dans un recueil d'herboristerie du tout début du XVIIIe siècle. Donc, la valériane et l'hélébore qui sont deux plantes hein, qu'on a sur notre territoire. Donc, dans le fonds ancien de la médiathèque Lamartine, hein, on a un fonds ancien intéressant. Ils ont récupéré le fonds ancien aussi de l'hôpital.
Là, juste devant nous, on a un instrument en bois qui servait à quoi ?
Alors, c'est l'ancêtre des attelles. Donc, quand vous cassiez la jambe, on vous attachait la jambe là-dessus. Alors, je sais pas, mais tu veux essayer, Ludo ?
Mais ça me paraît difficile pour pouvoir marcher avec.
Oui, ben voilà, faut prendre des béquilles et puis on pose pas le pied. Au moins, comme ça, on est sur la jambe raide.
Après, ce qu'on peut regarder, qu'on peut voir aussi quand on vient visiter la pharmacie, c'est donc d'autres mobiliers. Donc évidemment, c'est une mise en scène là pour cette partie-là hein, de cet espace. On a notamment quatre mortiers en bronze qui sont très beaux, qui sont classés au titre des monuments historiques. Ils sont inscrits au titre des monuments historiques et non pas classés, et qui datent, eux, du XVIIIe siècle. Ça veut dire qu'ils sont antérieurs à la pharmacie qu'on vient de visiter. Et donc, voilà. Mais par contre, ils viennent bien de l'ancienne pharmacie de l'hôpital.
Ça, pareil, ça vient de l'hôpital, tous ces produits qu'on voit au-dessus ?
Oui, alors c'est des cachets, des capsules, des médicaments en fait qui étaient fabriqués ici sur place ou achetés à des entreprises pharmaceutiques. On a encore les étiquettes là, on a par exemple les perles des terres produits pharmaceutiques Paris. Donc voilà, donc on achète aussi, on se fournit à l'extérieur pour tout ce qu'on ne peut pas fabriquer sur place, mais tout ça voilà, c'est des choses qui étaient restées là et qu'on a souhaité mettre en valeur dans cet espace un peu muséal hein, qu'est l'entrée. Donc c'est une mise en scène, mais on a voulu voilà, mettre en valeur tous ces produits et tout ce savoir-faire.
Voilà, différents flacons de différentes couleurs, différentes formes, même des boîtes en métal, du coup.
Oui, voilà, il y a tous les supports. Hein, on a dans les placards, on a aussi des boîtes en porcelaine, par exemple, pour les pommades. Et puis là, on a vu les pots à l'intérieur. Hein, donc, on a des pots en verre, on a des pots en porcelaine. On a tous les matériaux qui étaient utilisables étaient mis à contribution, plus des éléments bien sûr en bois.
Alors, il y a d'autres ustensiles que vous pourrez voir également. On ne va pas tous les décrire. Les visites vont reprendre. On croise les doigts cet été. Dans l'entrée, en face des statues, il y a un petit panneau explicatif où ressort le nom de Guy Tcholiak. Pourquoi, Nelly ?
Alors, Guy Tcholiak, effectivement, Alexandre en a parlé en introduction. C'est le nom que porte l'hôpital actuel de la ville de Mende. Et Guy Tcholiak, en fait, c'est un célèbre médecin chirurgien du Moyen-Âge, originaire du Gévaudan, à qui on doit énormément au niveau national et même au-delà sur la chirurgie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il est très très important pour la médecine en général.
Oui, je parlais tout à l'heure de la peste de 1721, mais Guy Tcholiak, il est associé à la grande peste du Moyen-Âge, donc de 1340. C'est le premier médecin qui va identifier la peste. Donc lui, il est auprès des papes en Avignon. Il est le seul médecin à ne pas fuir la ville à l'arrivée de la maladie. Il va trouver le remède pour soigner les gens de la peste. Ça marche suffisamment bien pour que lui-même se soigne lui-même et survivre à la peste. Et puis, sur la fin de sa vie, alors qu'il est médecin d'un autre Lozérien, le pape Urbain V, il va écrire un ouvrage qu'on appelle « La Grande Chirurgie », qui est la première somme où on associe toutes les connaissances occidentale, mais aussi du monde musulman, en médecine, plus les pratiques. Parce que la grande révolution de Guy Tcholiak, c'est d'être médecin, donc homme d'église, mais lui, il refuse la non-pratique. C'est-à-dire qu'un médecin, au Moyen-Âge, il ne touche pas notamment au sang. Il y a un interdit, le sang est impur, donc un médecin ne peut pas toucher au sang. Et Guy Tcholiak dit, moi, je veux être médecin et chirurgien. Jusque-là, le chirurgien, et encore après, Ambroise Paré, il était barbier chirurgien, il n'était pas médecin. C'est rassurant. Quelque part. Donc cette somme, qui est la grande chirurgie, va servir de base à l'enseignement médical jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc véritablement un personnage qui a marqué son art et sa science.
Alors c'est vrai qu'après, on a d'autres médecins peut-être moins connus et pourtant qui mériteraient de l'être, notamment le docteur Rouvière, qui est originaire du Blémar et qui a énormément fait aussi pour la... Docteur Rouvière, bien plus proche de nous que Guy Tcholiak du Moyen-Âge, mais qui a énormément fait pour la médecine moderne, en fait. Donc, tous les médecins connaissent le docteur Rouvière.
Guy Tcholiak a donné son nom à beaucoup de bâtiments, beaucoup d'hôpitaux, notamment à Montpellier. Il y en a un, il y en a plusieurs en France. Il y a une actualité pour cette ancienne pharmacie ?
Alors, bien sûr, il y a eu la restauration, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 2019 restauration, réouverture en début 2020, donc une réhabilitation complète avec recréation donc ce premier espace et puis essentiellement un nettoyage et un toilettage de la partie pharmacie véritablement, donc par la ville de Mende avec le soutien du département, de la région, de l'État et de l'Europe. Les visites donc ont commencé. On a essayé au tout début du printemps, puis malheureusement, on a été obligé de reporter à l'été. Alors cet été, on en a fait beaucoup, ça a beaucoup plu et on va recommencer. Donc sur réservation, puisqu'on a des nombres limités de visiteurs pour des questions de sécurité. Donc sur la période estivale, suivant donc la programmation qui sera transmise pour l'été. Et puis, actu à venir, c'est en lien là non plus avec la pharmacie, mais avec l'hôpital, c'est à la cathédrale. Donc les travaux du trésor sont en cours, donc l'aménagement d'une partie muséale. Et on va y exposer le retable de la chapelle de l'hôpital, donc le retable où étaient installées les statues qui sont ici. Donc les statues seront là, le retable sera lui dans la chapelle sous le petit clocher, le clocher sud de la cathédrale.
On a une anecdote pour Brillant Société, Nelly ?
Alors, est-ce que tu sais quelle est la plante qui, selon le dicton, éloigne le médecin ?
C'est la sauge, d'où le dicton, si tu as de la sauge dans ton jardin, tu n'as pas besoin de médecin.
Exactement, la sauge éloigne le médecin. Donc selon la légende, Zeus aurait été élevé par une chèvre près d'un buisson de sauge et c'est grâce à celui-ci qu'il aurait acquis son pouvoir divin. Et puis après, effectivement, plus près de nous, le fameux dicton provençal nous dit que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Donc plantez tous de la sauge officinale, bien sûr, dans votre jardin. En plus, c'est très bon aussi, juste pour accompagner des plats.
Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir accompagnés sur cette visite.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Voilà, on retrouvera Caro normalement pour la prochaine visite. On va aller de quel côté, Nelly ?
On va reprendre le petit fil qu'on avait tendu la dernière fois et donc on va descendre et on va suivre le Lot. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.